Donc, je vous rappelle résumé des épisodes précédents. Les Anglais viennent de bombarder Alexandrie, ce qui a provoqué des destructions considérables. L'armée égyptienne s'est repliée sous le commandant de Rabi Pacha à Kafr ed-Dawar, donc à proximité d'Alexandrie, mais hors dehors de portée des canons de marine britanniques. Le Khédive s'est rallié aux Anglais, tandis que Rabi a proclamé que l'Égypte était en guerre avec la Grande-Bretagne et que le Khédive est un traître à la nation. Donc la première action est de rassembler une assemblée, une réunion générale des notables d'Égypte, environ 400 personnalités réunies au Caire à partir du 17 juillet 1882. Mohamed Abdo est le président, secrétaire de séance. Les religieux appellent à la déposition du Khédive et au djihad contre les envahisseurs incroyants. Les turco-circassiens se montrent plutôt légalistes, c'est-à-dire essayent de défendre l'autorité du Khédive. Il faut noter qu'il y a dans cette assemblée des représentants chrétiens et juifs, mais des orateurs comme le grand orateur Abdallah Nadim, lui, fait de la défense de l'Égypte et de la défense de l'islam une mission unique. Alors, l'Assemblée demande le rappel des ministres qui se trouvent encore à Alexandrie. Il s'ensuit des échanges de télégrammes, entre Alexandrie et le Caire, et puis finalement l'Assemblée envoie une délégation pour essayer de négocier avec le Khédive. Elle est dirigée par un personnage dont on n'a pas eu le temps vraiment de parler, qui est Ali Pacha Moubarak, qui est un personnage intéressant, important dans l'histoire de l'Égypte, parce que c'est un Égyptien de souche, c'est un des premiers à avoir accédé au rang de ministre, et c'est aussi quelqu'un qui a écrit de façon considérable. Donc les écrits d'Ali Pacha Moubarak, en particulier son tableau de l'Égypte, Retatmos, est une grande référence pour la connaissance de l'Égypte de la fin du XIXe siècle. Jacques Berck l'avait abondamment utilisé dans son livre « Égypte, impérialisme et révolution ». Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ali Pacha Moubarak se rallie au Khédive et non pas au Rabi, ce qui permet de montrer que le clivage turco-circassien-égyptien de souche ne fonctionne pas à 100% durant la crise. Le 29 juillet, l'Assemblée se réunit toujours au Caire. Tout le pays est représenté sauf la côte méditerranéenne et la région du canal. Et cette fois, on considère que les Khédives et les ministres sont prisonniers des Anglais, donc ils n'ont plus d'autorité. Au signe intéressant, on décide qu'on n'utilisera plus que la langue arabe comme langue de gouvernement et non plus le turc ottoman, même s'il était maintenant d'un usage assez résiduel, mais c'est une démonstration supplémentaire de l'arabisation de l'administration égyptienne au XIXe siècle. À partir de cela, l'Assemblée désigne un conseil de guerre, Majlis al-Orfi, qui va gouverner le pays durant la guerre. C'est avant tout une réunion de hauts fonctionnaires et pas un comité révolutionnaire. Et il se renvoie, comme son nom l'indique, au droit coutumier, off, et en attendant la sanction de Constantinople. L'essentiel de l'infrastructure religieuse musulmane, mais aussi chrétienne d'ailleurs, s'est ralliée au rabbi. Il en est de même donc des gens comme Mohamed Abdou et en particulier aussi le jeune Saad Zarloul qui lui est très véhément dans ses attaques contre le Khedive. Vous savez que Saad Zarloul, 30 ans après, sera considéré comme le père de la nation égyptienne à cause de la révolution de 1919. Donc c'est là évidemment il faut suivre le trajet. Les Copts suivent le mouvement, mais exclusivement au nom de la défense de la patrie égyptienne et non pas de l'islam. Les fonctionnaires européens ont pratiquement tous quitté leur poste. Il n'y a pas d'utilisation, semble-t-il, dans les textes, on n'est pas trouvé, du terme « révolution ». Ce qu'on a, c'est évidemment djihad, lutte contre l'infidèle, défense de la patrie égyptienne, mais il n'y a pas de mesure révolutionnaire. La seule, mais qui est importante, c'est l'abolition de l'usure rurale. Et cette mesure touche directement les usuriers levantins, grecs en particulier, ou syro-libanais, qui, dans le delta du Nil, opprime littéralement le paysannat égyptien. Donc cette décision d'abolir l'usure rurale est évidemment très bien reçue du côté du paysannat. Mais il n'y a pas de violence, après l'explosion de violence d'Alexandrie, il n'y a pas d'explosion de violence contre les Européens. À l'extérieur, Ourabi se présente dans ses télégrammes comme défenseur de l'islam, mais le sultan ne veut pas en entendre parler. Du côté du Khedive, majoritairement quand même des turco-circassiens, mais des gens, comme je dis, comme Ali Pacha Moubarak, se sont ralliés à lui. Puis toute la vieille classe politique, les Sharif Pacha, les Rias Pacha, etc. Et de l'autre aussi, alors il essaye de recruter des soldats. Donc il lance une campagne de recrutement dans les Balkans. Mais le sultan Abdelhamid n'en veut pas, parce que ne serait-ce que parce que ça risque d'empiéter sur les capacités de recrutement de l'armée ottomane. Donc le Khedive se tourne vers l'Autriche-Hongrie qui lui permet de recruter quelques bosniaques musulmans puisque la Bosnie-Herzégovine est occupée depuis 1878 ou 1879 par les Autrichiens. Mais c'est absolument pas suffisant. En réalité, l'autorité du Khedive ne dépasse pas le palais Khedivial d'Alexandrie. Quant au sultan Abdelhamid, il se refuse, enfin il lanterne toujours les Occidentaux en refusant d'envoyer une armée ottomane, mais en même temps il condamne vigoureusement la révolte d'Ourabi, qui selon lui est une insurrection contre Dieu, les prophètes et les califes. Évidemment, les Ourabistes dissimulent le message du sultan. Ourabi, lui, y réside à Kafrat Dawa et essaye de recruter le maximum de combattants égyptiens. Donc, voici l'arrivée de recrues pour les troupes d'Ourabi Pacha. Mais il faut bien avouer que la valeur de l'armée égyptienne a bien baissé depuis le début du Khedivia d'Ismaïl, en dépit des efforts fournis pour son armement, les réductions budgétaires, les oppositions politiques ont considérablement affaibli une armée. On peut certes lever des fellahs en masse, mais ils n'ont aucune formation militaire. Quant aux Bédouins, ils affluent, mais tout le monde sait que ce sont des purs opportunistes qui sont là essentiellement pour le pillage et non pas pour la défense de la patrie ou de l'islam. L'ami d'Orabi, le jeune Ninette, le Suisse, marque dans ses écrits l'enjeu, il publie ça dans la presse suisse. L'islam, selon notre correspondant, est en fermentation pour un réveil général qui ébranlera l'Angleterre, mettra fin à l'Empire ottoman, mais donnera à un calife vraiment souverain, à un vaste empire musulman de 200 millions d'âmes en Afrique et en Asie. Et là, évidemment, dans ce petit texte de Ninette, on retrouve les échos de Blount et d'Afrani, qui montrent bien qu'il y a bien une communauté d'idées dans l'entourage de Rabi sur une éventuelle remise en cause du califat ottoman. Alors, après avoir bombardé Alexandrie, les Anglais sont bien embêtés. Bon, l'arrivée des premières troupes venues de Malte a permis d'occuper Alexandrie, mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les Égyptiens n'ont pas cédé. Et puis, d'autre part, il faut trouver un prétexte juridique pour intervenir. Et Londres va proposer à Paris, comme motif d'une intervention militaire, la protection du canal de Suez et non pas la restauration de l'ordre en Égypte. Le problème, c'est que personne ne menace le canal de Suez. D'autant plus, je vous le rappelle, que la flotte française est à Port Saïd. Et qu'elle circule librement dans le canal. Donc Paris propose que l'on saisisse la conférence de Constantinople, la conférence des ambassadeurs, pour obtenir un mandat européen prévoyant une occupation franco-britannique de la région à titre préventif. Car l'angoisse des Européens, c'est que les nationalistes égyptiens coulent des bateaux dans le canal et mettant fin pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la navigation. C'est exactement ce que fera Nasser en novembre 1956, lors de l'intervention franco-britannique. Donc, il faut saisir les parlements des deux pays, puisque selon le système parlementaire dans les deux cas, ce sont des votes de crédit. Mais les votes de crédit signifient une décision politique. La France voudrait avoir un mandat européen, tandis que les Britanniques sont prêts à agir sans mandat européen. Du côté français, Lesseps a fait savoir que le Khedive lui avait confié qu'il avait la preuve qu'Orabi était un instrument de la porte pour mettre fin à la dynastie de Mehmet Ali et établir la victoire de l'islamisme sur les chrétiens. Et Lesseps demande donc une occupation française du canal, mais le consul de France n'est pas totalement convaincu et s'inquiète du discours tenu par Sir Beauchamp Seymour, l'amiral britannique, qui évoque le danger de l'excitation. Donc là, vous avez les navires de guerre à Port Saïd en 1882. L'excitation de la population égyptienne à Port Saïd. On ne veut pas une répétition de ce qui s'est passé à Alexandrie. Du coup, l'ESSEP, finalement, décide de renoncer à demander l'intervention française et se tourne vers Orabi Pacha pour lui demander de garantir la sécurité du canal. Les SEPS, par ailleurs, travaillent toujours à essayer de maintenir la neutralité du canal de Suez, ce qui agace les amiraux français et anglais. Les SEPS n'a pour lui que l'acte de concession qui évoque la libre circulation et le fait que, durant la guerre franco-prussienne des 1870-71, et turco-russe de 1878, le canal avait été considéré comme zone neutre, mais ce n'est inscrit dans aucun texte international. Donc, le 10 juillet, le gouvernement fraissinet a déposé auprès des chambres une demande de crédit pour accroître les moyens de la marine française en Méditerranée et couvrir le coût des mesures d'évacuation des ressortissants français d'Égypte. Mais cette première demande de crédit n'est pas suffisante et Fraissinet s'est engagé à revenir devant les chambres, parce qu'à l'époque on dit chambre des députés et sénat, donc les chambres au pluriel, n'est pas assemblée, comme aujourd'hui, sous la Ve République. Fraissinet a dû prendre l'engagement de revenir auprès des chambres pour demander l'autorisation en cas où on viendrait une intervention militaire. Mais à Constantinople, ni la Russie, ni l'Allemagne, ni l'Autriche-Hongrie ne veulent donner de mandat européen à l'occupation du canal, tout en reconnaissant la liberté d'action de la France et de la Grande-Bretagne. En conséquence, le 24 juillet 1882, les deux gouvernements déposent auprès de leurs parlements respectifs les demandes de crédit. Pour le gouvernement anglais, il s'agit d'obtenir l'autorisation de faire des préparatifs militaires qui le mettent à même d'intervenir en Égypte. On explique que l'on n'agit que pour le bien de l'Égypte, restauration de l'ordre et de la tranquillité, maintien de l'autorité du Khedive, développement de matières prudentes et judicieuses des libertés du peuple égyptien quand il aura été libéré de la tyrannie militaire qui s'exerce actuellement sur lui. L'intérêt de l'humanité impose de mettre fin à la dictature militaire en Égypte. C'est pénible avec les Occidentaux, ils ont toujours de bonnes raisons morales pour intervenir. Les communes votent les crédits demandés par 279 voix contre 19. Les 19 opposants sont essentiellement des nationalistes irlandais et des radicaux les plus extrêmes de la Chambre. Les jours suivants, Gladstone affirme à plusieurs reprises que l'Angleterre est prête à assurer au peuple égyptien le self-government. Alors ça, jusqu'à la fin, le self-government sera toujours un problème pour les Français parce que c'est un mot qui, jusqu'à aujourd'hui, est totalement intraduisible en français. Encore aujourd'hui, self-government, quand on a parlé d'une autorité de self-government en Palestine, les Français n'ont pas très bien su ce que ça voulait dire. Dans l'entre-deux-guerres, la Société des Nations traduisait self-government par libre gouvernement. Et je fais une anticipation évidemment, mais en 1945, la charte des Nations Unies définira les territoires sous colonisation comme des territoires n'ayant pas de self-government. Mais ça laisse toujours des problèmes de traduction. Alors, si l'Angleterre, le gouvernement anglais obtient sans problème l'autorisation et les crédits nécessaires pour l'intervention militaire, le débat français va être beaucoup plus difficile. D'abord parce que le but de Fraissinet, ce n'est pas tellement d'intervenir en Égypte, mais de maintenir l'alliance franco-britannique, l'entente cordiale. Au-delà, c'est toute la politique d'expansion coloniale entamée par la République des Républicains qui est en jeu. Et Fraissinet a contre lui l'hostilité provoquée par l'attitude du gouvernement Ferry, qui a imposé l'occupation de la Tunisie tout en affirmant qu'il s'agissait de mesures partielles de nature défensive et préventive. Tout le monde a à l'esprit les quolibets de Rochefort sur les chromires qu'on n'arrivait jamais à retrouver et qui avaient servi de justification. D'autre part, ni à Londres ni à Paris, on ne veut pas être intervenir pour verser du sang français ou anglais pour l'intérêt des porteurs de coupons de la dette égyptienne. Donc, les uns et les autres doivent insister sur la fibre patriotique et chauviniste de leur opinion publique, rejeter la validité d'un nationalisme égyptien et réduire le mouvement orabiste à une identité pan-islamique et anti-chrétienne. On y ajoute de puissantes considérations géopolitiques, à la fois coloniales et européennes. Alors, les deux débats de juillet 1882 à la Chambre des députés à Paris sont un des grands sommets de l'art oratoire de la Troisième République. Donc, je me permets de vous en donner de très longs extraits, rien que pour vous faire sentir la différence dans la qualité des discours de l'époque par rapport aux discours d'aujourd'hui. La question même du fondement philosophique de l'expansion coloniale a été posée dans ce débat. Et à mon avis, le débat de 1882 est plus intéressant encore que celui de 1885 qui amènera la chute de Ferry à propos des affaires de Chine. Et pour nous, il compte plus, évidemment, le débat de juillet 1882 parce qu'il pose radicalement la question des rapports entre la France et le monde musulman. Alors, les premières séances, c'est le 19 et le 20 juillet 1882. Alors, il y a beaucoup d'orateurs, je n'en ai sélectionné qu'un certain nombre ici. Il y a le premier vraiment à parler, c'est Édouard Lecroix, qui ne vous dit rien aujourd'hui, mais qui était une personnalité très connue à l'époque, puisque c'était un ancien compagnon de Garibaldi dans l'expédition de Sicile. Ensuite, il était parti avec Renan pour la campagne archéologique en Palestine, en Phénicie, la mission de Phénicie, en 1860-1861. Alors, je ne sais plus si c'est le gendre ou l'épouse d'une petite fille de Victor Hugo, enfin donc c'est quelqu'un qui, une personnalité importante à la fois dans le monde littéraire et dans le monde politique français du début de la Troisième République. Et c'est lui qui est le premier, semble-t-il, à dire que la France est une puissance musulmane. Je cite. Est-ce que nous ne sommes pas une grande puissance musulmane ? Est-ce que nous ne possédons pas l'Algérie et cette Tunisie que le ministère veut annexer à la France ? Est-ce que nous n'avons pas aussi à la défendre et à les protéger ? Est-ce que nous n'avons pas à assurer là aussi la sécurité de nos nationaux, à empêcher la révolte des Arabes ? Est-ce que nous n'avons pas des devoirs à remplir envers les colonies algériennes, tout aussi bien qu'envers celles du Caire et d'Alexandrie que l'on avait promis de défendre ? Ne croyez-vous pas que le jour où l'Égypte sera aux mains d'une autre puissance, que le jour où il n'y aura plus d'influence française en Égypte, où cette influence sera remplacée par l'influence turque et par celle d'une autre puissance, ne croyez-vous pas, dis-je, que ce jour-là, s'il y a un mot d'ordre, un cri de guerre poussé dans les mosquées du Caire et d'Alexandrie, dans la mosquée de l'Azhar, que ce cri retentira immédiatement et aura de l'écho dans toute l'Afrique septentrionale? Ne croyez-vous pas que ces cris de passion et de haine qui se répandent avec une facilité si effrayante dans ces pays, qui semblent sans moyen de communication, que ces cris de guerre qui sont comme emportés à travers le désert par le vent qui y souffle jusque dans le territoire algérien et même jusqu'à l'Atlas, ne croyez-vous pas que le jour où ce cri de guerre se ferait entendre, nos colonies ne seraient pas menacées, que la France en danger ne serait pas forcé d'engager 150 000 ou 200 000 de nos soldats pour défendre nos possessions. Comme le journal officiel note très bien, sur quelques bancs de la gauche. Lecroix utilise aussi l'argument économique. L'Orient est un marché essentiel pour les produits manufacturés français. Comme beaucoup d'interventionnistes, il fait la distinction entre un parti national égyptien respectable et le parti militaire qui veut rétablir une sorte de domination mamelouk. Le second orateur qui nous intéresse, c'est Francis Charme, un des grands piliers de la République des Républicains, qui est le frère de Gabriel Charme, dont j'ai déjà abondamment parlé les fois précédentes. Donc Charme fait de la France une puissance arabe et une puissance musulmane. Et c'est lui le véritable auteur d'une expression que l'on attribuera postérieurement au maréchal Diotet, puisqu'il utilise pour la première fois le terme « monde arabe » dans son sens actuel, plusieurs décennies avant qu'il n'entre dans le vocabulaire courant. Je cite « Il en résulte pour nous des obligations. Nous avons des précautions particulières à prendre. Tous ceux qui connaissent l'Orient savent très bien à quel point dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier, il y a une répercussion rapide de tous les ébranlements qui se produisent sur un point et qui immédiatement ont leur contre-coup sur tous les autres points d'une surface immense. » Très bien, très bien, dans l'Assemblée. Le feu avait pris à l'une des extrémités du monde arabe et aussitôt à travers ces pays, ces soubassements peu connus et toujours mobiles qui sont au sud de nos frontières africaines, l'ébranlement est revenu secouer l'Égypte même, y a surexcité les émotions les plus vives, animé les passions les plus ardentes, provoqué des prophètes et fait naître les dangers auxquels nous sommes aujourd'hui exposés. Plusieurs orateurs donc vont aussi. J'avais fait jadis un article complet sur ce débat que vous retrouvez dans les volumes des Orientales. Mais évidemment, le sommet, ça va être le grand affrontement oratoire entre les deux plus grands républicains du temps, c'est-à-dire Clémenceau et Gambetta. Alors, c'est Gambetta dont la santé commence à décliner, et c'est la dernière fois que Gambetta va prendre la parole à la Chambre en rejetant l'idée d'une intervention ottomane. Messieurs, je crois que c'est la pire des solutions et c'était à mon sens un point sur lequel il ne fallait pas céder que la question de l'intervention turque. Ramener le Turc au pied des pyramides, c'est jouer avec le feu en Algérie et en Tunisie. Très bien, dans l'Assemblée. Ramener le Turc sous le pavillon français, c'est dire à tout l'Orient que le calife est devenu votre maître, c'est abolir en un jour 50 ans de notre politique. Très bien, sur quelques bancs. Et selon Gambetta, une intervention militaire française s'inscrit dans la tradition de la présence française en Égypte, ce ne sera pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de parti national en Égypte. Messieurs, on ne s'est pas contenté de vous dire qu'il y avait un parti national, que je vous décrirai si vous voulez. On vous a dit qu'il y avait là une jeune nationalité. Et alors, probablement parce que l'application de ce principe des nationalités nous a été excessivement favorable, on se propose de sauver des eaux du Nil la jeune nationalité égyptienne. Sourire approbatif, dit le commentaire. Messieurs, ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le compte d'un parti national qu'il faut aller en Égypte, c'est pour la nation française. Très bien, commentaire dans la somme. Pour cette nation française dont on prenait si éloquemment en main la défense à cette tribune et qui aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, promène une vie errante et misérable sur toutes les côtes de la Méditerranée. Ensuite, il évoque les Anglais, et il pense certainement à son ami Dilk. Quand vous serez là aux prises, vous aurez les Anglais en face de vous. Et alors, ne vous y trompez pas. Et rappelez-vous que les Anglais ont pour habitude de distinguer entre les peuples. D'une part, il y a les peuples qui ne considèrent comme une nation d'une race analogue à la leur et qui peuvent jouir des institutions de la libre Angleterre. C'est l'Australie, c'est le Canada. Ce sont les pays où il y a véritablement un peuple avec ses couches successives, avec ses traditions, avec sa langue propre ou ses aptitudes déjà formées. À cela, les Anglais donnent des institutions qui, peu à peu, émancipent ces races et en font pour ainsi dire les sœurs cadettes de l'Angleterre. Mais il y a d'autres races, paraît-il, dont la caractéristique aux yeux de l'Angleterre a toujours d'être dominée, de vivre sous le bâton, et qui ne sont bonnes à devenir peuple qu'à la condition de ne pas être livrées à toute espèce de sollicitation venue du dehors. Messieurs, on parle de nationalité, mais la nationalité, cela ne s'invente pas. Et cependant, ici, dans la question qui nous occupe, on trouverait facilement les docteurs en S-sciences parlementaires qui sont allés en Égypte semer et faire fructifier cette graine nouvelle du Parti national. Sourire dans l'Assemblée. Je vous assure que si on faisait leur biographie, vous seriez fort étonnés de voir quels sont les parrains de la nouvelle nationalité égyptienne. Rire approbatif sur divers bancs à gauche et au centre. Oui, messieurs, on les connaît. Ils entrent même volontiers en relation avec les hommes politiques. Personne n'ignore que j'ai moi-même mentionné dans une dépêche du Livre jaune où ils ont leur siège de leurs opérations et à quel prix ils y mettent. Messieurs, quand vous serez là, vous y trouverez cette Angleterre qui connaît le Fela, qui sait quelle somme de libre examen et de préparation civique il y a dans cette race depuis les Hyksos et les Pharaons jusqu'à nos jours. Les Anglais vous diront qu'ils ne sont pas du tout partisans de cet ordre de civilisation, peu à peu, car ils sont déjà sur place, et vous n'y êtes pas encore. Peu à peu, ils s'apercevront que les intérêts qu'ils ont à défendre là-bas sont mis en question par les nébuleuses et chimériques rêveries du Parti national, et vous arriverez avant longtemps, si telle est la condition de notre intervention en Égypte, à un conflit qui ne tardera pas à devenir assez aigre. Et il continue donc pour plaider l'intervention militaire française. Et à ce moment-là, Clémenceau demande la parole et demande la suspension de séance parce qu'il a l'intention de répondre longuement à Gambetta. Et donc, on décide que la réponse de Clémenceau aura lieu le lendemain. Et dans l'intervalle, la Chambre passe à la suite de l'ordre du jour parlementaire, c'est-à-dire contrôle des importations de viande de porc étrangère, surtaxe sur les vins à l'octroi de Loudun, aide financière à apporter à l'acquisition de terres et aux travaux de colonisation en Algérie. Alors voilà Clémenceau en 1882, c'est une photo, on a tellement l'habitude de voir le Clémenceau de la Première Guerre mondiale qu'on oublie qu'il a d'abord été un homme jeune et un redoutable bretteur. Donc le 20 juillet 1882, Clémenceau prend la parole et c'est un de ses plus célèbres discours, toujours cité, mais de façon imparfaite dans les différentes biographies de Clémenceau. L'honorable monsieur Gambetta disait dans son discours, ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le parti national qu'il faut aller en Égypte, mais pour la nation française. Assurément, sous cette forme, cette proposition ne rencontrera pas de contradicteurs. Mais voyons ce qu'il y a au fond de cette idée. Les Français soutiennent qu'ils ont de puissants intérêts en Égypte. Les Anglais, les Italiens, d'autres encore disent de même. Au risque de paraître soutenir un paradoxe, je voudrais dire qu'il me semble que les Égyptiens, eux aussi, ont quelques intérêts en Égypte. Je voudrais examiner quels sont ces intérêts et démontrer, si je peux, que ces intérêts bien compris sont absolument identiques aux intérêts français et aux intérêts européens. Voilà la démonstration que je voudrais faire. Et ensuite, Clémenceau développe ce qu'il appelle un programme de politique démocratique. Il y a une observation que je suis obligé de faire, c'est que ceux-là même qui contestent qu'il y avait une politique républicaine doivent reconnaître qu'il y a une politique de quelque nom qu'on l'appelle, je l'appellerai volontiers politique démocratique, qui s'attache plus aux conquêtes morales qu'aux conquêtes matérielles, une politique qui croit que la guerre est une hérésie économique où le vainqueur souffre autant que le vaincu, qui croit que, quand une civilisation supérieure vient à se superposer à un rudiment de civilisation, au lieu de chercher l'exploitation de l'homme par l'homme, au lieu de chercher la domination, il faut s'efforcer de fondre un ordre basé sur les principes du droit et de la justice, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique et social. Très bien, à l'extrême gauche. Selon Clémenceau, ça a été la politique de la Première République en dépit des crises effroyables qu'elle a traversées. Vouloir imposer des procédés de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme est contraire à la tradition française et risque de conduire à une crise ou à une révolution. Et là, il aborde, là, c'est donc le passage le plus célèbre du discours, la question fondamentale de la fin du XIXe siècle, le rapport entre race et politique. Messieurs, je sais bien que ceux qui ne contesteraient pas d'une façon générale les prémices de cette discussion telle que je viens de les poser me disent aujourd'hui « Prenez-y garde, il y a deux sortes de races dans le monde, il y a celles à qui l'on peut appliquer les principes que vous proclamez et celles qu'il faut mener avec la courbache, c'est-à-dire la cravache, et le bâton. » Eh bien, j'ai précisément demandé la parole pour protester contre cette théorie qui consiste à introduire dans l'humanité, au moment où il disparaît de la science, le principe de l'immutabilité des espèces. Très bien, sur plusieurs bandes gauches. N'est-il pas étrange que l'on recommence à parler des races au moment où elles se mêlent de plus en plus et où l'unité de leur caractère paraît singulièrement compromise ? La vérité, c'est qu'il y a des peuples qui rêvent de la domination universelle, soit par la propagande des idées, soit par la conquête matérielle. Il y a le pan-germanisme, il y a le pan-slavisme, le pan-islamisme, il y a la théorie des races latines, il y a encore la théorie anglaise. La vérité, c'est que beaucoup d'Anglais sont persuadés de la supériorité de la race anglo-saxonne, au point de croire qu'elle est seule capable de liberté et que les autres races doivent être livrées aux différentes formes de despotisme, plus ou moins mitigées, qui sont répandues dans le monde. Et ensuite, Clémenceau cite la situation des Français du Canada soumis à l'oppression raciale britannique. Autrement dit, les Français peuvent se retrouver en situation de race inférieure. Il ne nie pas l'existence des races humaines, c'est admis scientifiquement dans cette Europe de la fin du XIXe siècle, mais il en limite la portée à une distinction entre race sauvage et race travailleuse. Et ça, c'est ce passage qui est régulièrement censuré dans toutes les biographies de Clémenceau, parce qu'évidemment, ça passe mal aujourd'hui. Si on voulait absolument faire une division entre les différentes races, je dirais qu'il existe deux races. Les races qui sont incapables de travailler, celles-là sont condamnées, elles doivent disparaître, et en fait, elles disparaissent. Ainsi, les peaux rouges d'Amérique. En second lieu, les races susceptibles de discipline et de travail, celles-là seront forcément sauvées. Tout peuple qui travaille sera racheté par la puissance émancipatrice du travail. Sans doute, ces peuples peuvent d'abord être exploités par des conquérants, par des aventuriers qui viendront s'emparer de leur sol. Mais je dis qu'ils arriveront à créer un régime économique qui, grâce au progrès de la civilisation, forcera leurs exploiteurs à composer avec eux. Et ils passeront ainsi de l'état d'esclavage ou de l'état de servage à la condition de salariés européens qui poursuivent eux aussi leur émancipation économique et sociale, incomplète encore, mais à laquelle ils doivent arriver par les réformes économiques que la République leur doit. Très bien, sur différents bancs de la gauche. Croit-on que les habitants de l'Égypte soient inférieurs aux esclaves nègres des plantations de l'Amérique ? Je les ai vus, ces hommes, Clémenceau a séjourné dans les années 1860 aux États-Unis, au moment de la guerre de sécession. Je les ai vus, ces hommes, ils paraissaient absolument incapables d'éducation et cependant, aujourd'hui, délivrés de l'esclavage, l'Amérique n'a pas craint d'en faire des citoyens. Ils remplissent dignement leurs fonctions publiques et savent très bien faire respecter leurs droits. Je ne veux pas entrer dans des considérations ethnographiques sur la race égyptienne. Ce n'est pas ici le lieu, mais il est certain que cette race dont nous voyons des échantillons remarquables parmi nous dans nos écoles est une race tranquille, docile, trop docile pourrait-on dire à certains moments, mais susceptible d'éducation, d'application de travail, une race dont assurément il y a lieu d'attendre beaucoup. On ne peut pas venir à cette tribune, on ne viendra pas dans le Parlement de la République dire que ces hommes sont incapables de civilisation, incapables de s'affranchir, et que nous n'avons d'autre devoir envers eux que de les mener par la courbache et le bâton. Et je vais plus loin. Alors même qu'ils ne seraient pas susceptibles d'affranchissement, ils sont encore susceptibles de justice. Alors même qu'ils ne pourraient pas s'élever jusqu'à comprendre les conditions de justice politique, économique et sociale qui sont nécessaires à l'existence d'une société, nous aurions le devoir de leur imposer ce même régime en vertu de notre supériorité, en laissant à l'éducation le soin de faire son œuvre de civilisation et de progrès. Assurément, si le but de l'alliance anglaise, telle qu'on nous l'a dépeinte et qu'on voudrait la pratiquer, était d'organiser avec nous l'asservissement à l'exploitation violente des races dites inférieures, je la répudierais bien haut. Et je dirais à nos prétendus alliés, à nos complices, devrais-je dire, que je refuse ma part de responsabilité dans une aussi condamnable entreprise. Et donc, il continue en disant qu'il ne s'agit pas, évidemment, de faire la guerre à la Grande-Bretagne. Mais croyez-vous que l'Angleterre en guerre n'hésiterait pas de s'emparer du canal de Suez? Elle est à Malte et à Chypre. Elle occupe Malte provisoirement, rire dans l'Assemblée, depuis 1801. Elle s'est emparée de Chypre dans les circonstances que vous savez, et ce n'est pas pour le plaisir de civiliser Chypre, oh, pas du tout. Dans ces conditions, je ne dis pas que nous devions en aucun cas aider l'Angleterre à assurer la liberté du canal, mais je ne m'illusionne pas sur la portée du concours que nous lui prêterions et sur les avantages qu'on pourrait retirer notre pays. Donc, il demande la collaboration franco-britannique, mais pour la justice et pas pour asservir la population égyptienne. Ensuite, il s'en prend à la colonie française d'Égypte, qui est atteinte de la maladie française typique du fonctionnarisme. L'Égypte souffre de ces centaines de fonctionnaires français et européens. Il faut envoyer des ingénieurs, des chefs d'entreprise, mais pas des fonctionnaire. Il met en cause la condition dans laquelle l'Égypte s'est endettée, avec toutes les malversations financières qui sont derrière l'endettement égyptien. Il reprend ensuite la défense du paysan égyptien. Il est certain que le mot nationalité n'a pas en Égypte le sens qu'il a parmi nous. Il n'y a pas encore de nationalité égyptienne, c'est l'évidence. Mais le seul fait qu'on a cru trouver un élément de force dans cette appellation de parti national suffit à montrer qu'il y a dans le pays un mouvement de l'opinion, un sentiment public qui réclame des satisfactions. Au fond de toute crise politique, ne l'oubliez pas, il y a un malaise social. Et ensuite, il explique que le malaise social en Égypte, c'est l'usure qui frappe la population paysanne égyptienne. Les 25 millions de livres sterling, dit-il, dus par les fellahs aux usuriers. Il rappelle que c'est la misère du peuple français qui a provoqué la révolution de 1789. Donc, c'est la misère du peuple égyptien qui provoque cette révolution de 1882. Et enfin, il reprend évidemment le thème sous-entendu de toute la gauche républicaine, enfin l'extrême-gauche républicaine, puisque, je vous rappelle, à l'époque, Clémenceau est considéré comme le chef de l'extrême-gauche. Il reprend le thème de la ligne bleue des Vosges. « Je ne veux juger les intentions de personne, mais enfin une chose me frappe. Il me semble qu'on nous pousse du côté de la Méditerranée. Il me semble qu'on cherche à nous éparpiller sur les rivages de l'Afrique, de même qu'on a poussé l'Autriche en Herzégovine et en Bosnie. Il me semble qu'on nous a poussé en Tunisie et qu'on nous pousse en Égypte. » Ce « on », c'est Bismarck, bien évidemment. Alors ensuite, on discute de détails du budget de la marine et on vote le 20 juillet les crédits par 424 voix contre 64. Mais le débat reprend les 29 et 30 juillet 1882. Freycinet n'invoque que l'occupation militaire du canal de Suez pour assurer la liberté de circulation et maintenir le prestige de la France dans le monde musulman, dit-il. Et là, l'opposition radicale se déchaîne. si c'est une occupation sans risque, il n'y a aucune raison d'y aller. Si elle implique d'entrer en conflit avec les Égyptiens, l'opération ne pourra être limitée et le gouvernement sera obligé de faire appel au patriotisme des députés pour les forcer à entrer dans l'engrenage d'une occupation de tout le pays. C'est-à-dire ce que les radicaux disent, c'est « ne refaites pas le coup de la Tunisie » ou « au nom d'une intervention militaire limitée, vous avez fini par occuper tout le pays ». La France ne peut se permettre une telle action alors qu'elle est en pleine réorganisation de son armée. On rappelle la désastreuse expédition du Mexique sous Napoléon III et la façon dont l'expédition de Tunisie donc a été présentée. Et le tigre, enfin on l'appelle déjà le tigre, hein, les Monceaux, parce que c'est le grand tombeur des ministères, reprend la parole. Quand on examine cette question égyptienne, on ne tarde pas à reconnaître qu'il n'y a pour nous que deux attitudes à prendre, deux politiques à suivre, la politique d'intervention ou la politique d'abstention. Je sais bien que le gouvernement en a inventé une troisième, mais comme elle n'a pas reçu de nom, je vous demande la permission de la laisser dans sa condition présente et de ne pas la tenir pour le moment sur les fonds baptismaux parlementaires. Rire. Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Est-ce la paix ? Non pas, puisque nous envoyons des troupes en Égypte. Est-ce la guerre ? Pas davantage, puisqu'il est entendu qu'elles ne se battront pas. Rire de vous. Ce n'est ni la paix ni la guerre, suivant le goût des orateurs et des auditeurs. Pour mieux dire, c'est une politique qui présente les inconvénients des deux autres politiques qui n'a les avantages d'aucune. Applaudissements à gauche. L'intervention française risquerait de provoquer un conflit européen, puisque derrière ça, il y a toujours les machinations de l'Allemagne de Bismarck. Messieurs, nous ne saurions nous arrêter à un pareil renversement des rôles. S'il y a un piège sous nos pas, il est en vérité trop grossier pour que nous puissions y tomber. Je vous refuse vos crédits, non seulement parce que c'est la guerre, mais parce que c'est la guerre dans des conditions que nul ne connaît, avec des conséquences que nul ne peut prévoir. Il faut que la France conserve sa liberté d'action à un moment où l'Europe est couverte de soldats. Cette intervention de Clémenceau clôt le débat et le projet de crédit est rejeté par 416 voix contre 75. Donc vous voyez là... cette caricature de l'époque, la République où la France se retire du guépier égyptien. Dans la foulée, Freycinet démissionne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les demi-mesures du projet colonial se sont heurtées à ceux qui ont avant tout à l'esprit la ligne bleue des Vosges, et qui ont vu dans l'affaire égyptienne une manœuvre allemande. Voilà, mais vous noterez cette qualité extraordinaire du débat, avec la puissance de réflexion des uns et des autres. Encore, je n'en ai que des extraits, parce que ça fait un certain nombre de pages dans le journal officiel de 1882, que je vous le rappelle maintenant, je crois, est consultable sur l'Internet. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, on va passer à l'intervention militaire britannique. À partir du mois de janvier 1882, les militaires britanniques avaient commencé à étudier la possibilité d'une intervention militaire en Égypte. Sous le prétexte du tourisme sportif, de la chasse aux canards, le lieutenant-colonel Tulloch est allé faire un relevé précis des défenses de l'Égypte et a esquissé un plan d'opération. Un professeur d'arabe à Oxford, Edward Palmer, est envoyé faire une enquête auprès des Bédouins du Sinaï. Palmer a jadis exploré la péninsule pour le compte du Palestinian Exploration Fund. Il débarque à Jaffa, ayant pris l'habit indigène, puisque c'était la mode, vous vous rappelez, les Burton et autres, les Bucart qui avaient sillonné la région sous habit indigène, et commence à prendre des contacts fructueux avec les Bédouins sous le nom de guerre qu'il a adopté de Cheikh Abdullah. Mais surtout, à la fin juin, l'adjudant général Troop Forces, c'est-à-dire le numéro 2 de l'unitaire chargé de la gestion du personnel, c'est Arthur Wolseley, est chargé de prendre le commandement de l'expédition en Égypte. Alors, c'est un personnage, c'est un des plus grands généraux de l'époque victorienne. Pour ceux qui connaissent la musique britannique de l'époque victorienne et les opérettes de Guibert et Sullivan, c'est lui le personnage de Very Modern Adjutant General, d'une célèbre chanson d'une opérette Guibert et Sullivan, qui est l'équivalent en anglais de Offenbach. En français, lui-même d'ailleurs adorait chanter cette chanson qui était sa caricature, c'est-à-dire ce général sait tout, l'art de la guerre, enfin les mathématiques, l'histoire de la guerre, etc. La seule chose qu'il a oublié d'apprendre, c'est l'évolution de l'art militaire depuis le début du 19e siècle. C'est un célèbre passage satirique qui est encore resté tout à fait connu chez les anglo-saxons. C'est un vétéran des guerres coloniales britanniques. Il a fait la Crimée, l'Inde, le Canada, l'Afrique du Sud. Et c'est surtout quelqu'un qui est connu pour la minutie de ses préparatifs, au point que dans l'armée britannique, l'expression « everything's all Sir Garnet » signifie que tout est en ordre. Parce qu'une fois que Sir Garnet a tout mis en ordre, tout est impeccable et tout va marcher dès le départ. Alors, dès Londres, il a fait son plan de guerre. Il prévoit que l'armée britannique occupera le canal de Suez, descendra sur Ismaïlia, puis ensuite elle marchera en direction du Caire par la voie du canal de Douce. Et logiquement, dit-il, avant de partir de Londres, la bataille finale aura lieu à Tel El Kebir face aux troupes arabistes. À partir du 4 juillet, donc avant le bombardement d'Alexandrie, des instructions secrètes ont été envoyées à un certain nombre d'unités pour se préparer à l'embarquement sous couvert de manœuvres. Ce qui explique pourquoi, dès le début de juillet 1882, des troupes ont débarqué à Malte et à Chypre. Ce sont celles qui sont venues occuper Alexandrie après le bombardement du 11 juillet. Le 6 juillet, le gouvernement des Indes a reçu l'ordre de préparer l'envoi de troupes sur Suez et Ismaïlia. Il faut montrer aussi ostensiblement que la Grande-Bretagne compte sur la loyauté de ses soldats musulmans et hindous, un quart de siècle après la grande mutinerie, la guerre des Sipayes. Le coût de cette expédition sera à la charge de l'Inde et non de la Grande-Bretagne. Le 24 juillet, oui, dans le système britannique, les troupes stationnées dans les colonies, et en particulier l'armée de l'Inde, qui est la principale armée britannique, est à la charge de la colonie. En revanche, mais c'est la dépense principale, toute la marine est à la charge de Londres. C'est la première marine de guerre du monde. Donc c'est une répartition des rôles. Le 24 juillet, la Chambre des communes vote le crédit pour l'envoi d'un corps expéditionnaire pour officiellement protéger le canal de Suez, par lequel passe 82% du commerce britannique. Personne n'est dupe. Il s'agit d'une invasion de l'Égypte. La station française provoque l'abstention de l'Italie. L'Angleterre agira seule, ce qui ne déplaît pas à son gouvernement, heureux de retrouver une pleine liberté d'action. Donc maintenant, l'ambassadeur anglais à Constantinople, Lord Dufferin, a pour instruction justement d'empêcher les Ottomans d'envoyer des troupes en Égypte, alors que jusque-là, c'était l'inverse. Tout ce qu'on attend maintenant du gouvernement ottoman est la condamnation d'Ourabi et un soutien public au Khedive. Et donc, à la mi-juillet, les nouvelles troupes embarquent dans les ports différents. Donc, vous voyez ici l'embarquement des troupes britanniques sur les navires de guerre à destination de l'Égypte. Ah, vous voyez ce bel uniforme rouge, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que l'armée britannique va entrer en opération avec le grand uniforme rouge, pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué l'autre jour, en 1884 va être découvert l'utilisation de la poudre sans fumée. Donc jusque-là, il faut bien comprendre que c'est d'aucune importance d'avoir un grand habit rouge, parce qu'au bout du quatrième ou cinquième tir, on est couvert de fumée et on ne vous voit plus. Et donc, avec la poudre sans fumée, on va rester visible. Donc, à partir de la fin des années 1880, l'uniforme britannique va changer, puisqu'on va adopter de façon généralisée une pratique qui est déjà commune dans l'armée des Indes, la tenue kaki. C'est donc le moment, à la fin des années 1880, où les militaires deviennent kaki, ceux qui vont rester jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça valait la peine de noter ce détail. Et là, vous avez le droit à votre pause de 5 minutes réglementaire.